Les podcasts de l'Institut de France. L'entretien de la semaine. Rencontre avec un académicien.
Dans l'Antiquité, certains orateurs n'avaient pas pour mission de convaincre ou de juger, mais de célébrer. Ils composaient alors ce qu'on appelle un discours d'éloge ou discours épidictique, un art très codifié qui met en valeur un homme, une cité ou même une idée. La pratique a traversé toute l'Antiquité, et pour mieux explorer ce type de discours, quoi de mieux que de prendre un texte canonique du genre, le discours en l'honneur de Rome, prononcé au IIe siècle par le grec Aelius Aristide. C'est un texte qui met en scène la grandeur de l'Empire romain à son apogée. Et alors ça tombe bien, le grand spécialiste de la rhétorique antique, Laurent Pernot, vient de publier une édition traduite et commentée de ce discours qui a fait date, une édition publiée aux belles lettres. Laurent Pernot, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes membre de l'Académie des inscriptions et belles lettres. Merci beaucoup d'être avec nous dans ce studio. Je voudrais commencer par faire un éclaircissement terminologique, parce que dans l'introduction, j'ai parlé d'éloges, de discours épidictiques, on parle aussi même de panégyrique. Est-ce que les trois désignent la même chose ou alors faut apporter quelques nuances quand même ?
Le concept de base, c'est le concept d'éloge. Le type de discours que a inventé la rhétorique grecque, c'est le discours d'éloge par opposition, comme vous l'avez dit, au discours prononcé dans une assemblée politique et au plaidoyer prononcé devant un tribunal. On trouve ça dans la rhétorique d'Aristote. Et alors Aristote appelle l'éloge genre épidictique, ce qui veut dire démonstration, exhibition oratoire. Le mot panégyrique, c'est encore différent. Ça veut dire qu'il s'agit d'un discours qui prend place dans une panégyrie, c'est-à-dire dans une fête solennelle. Dans tous les cas, on a comme fond du discours d'éloge le fait qu'il est adapté aux cérémonies. Il a été illustré dans la pratique, ce genre, sous différentes formes. Il y a des éloges solennels, par exemple, dans les cérémonies destinées à honorer la mémoire des soldats morts pour la patrie. Il y a des discours de contenu politique, par exemple, ce qu'on appelle le panégyrique, justement, d'Isocrate. C'est un discours qui fait l'éloge d'Athènes pour montrer qu'Athènes a vocation à prendre la domination, en somme, des cités grecques. Et puis, il y a le discours sophistique. Par exemple, l'éloge d'Hélène. Hélène, l'héroïne de la mythologie, a été louée par Gorgias. Alors, vous vous rappelez qu'elle avait quitté son mari, le roi Ménélas, pour suivre le beau et jeune prince troyen Paris. Et donc, l'éloge consiste ici à dire qu'elle a bien fait, parce qu'elle a écouté les dieux, ou alors elle a écouté son cœur, ou encore elle a écouté les discours de Paris, le séducteur. Enfin, dans tous les cas, on ne peut pas la blâmer.
Donc si je comprends bien, ce genre de discours, il a plusieurs objectifs. Vous avez parlé de rendre hommage à des morts. Il peut servir aussi à renforcer l'identité collective d'un État, d'un peuple. Il y a plusieurs objectifs derrière.
L'éloge a une fonction très particulière, très délicate à analyser. J'ai consacré à ce sujet ma thèse de doctorat d'État, comme on disait à l'époque, il y a de nombreuses décennies. Et en ce temps-là, les choses n'étaient pas au clair. Parce que, comme le discours d'éloge n'est pas suivi par un vote ou par un verdict, on a l'impression qu'il ne sert à rien, que c'est une ostentation vaine pour le parler, pour le plaisir de parler. Or, en fait, ça n'est pas le cas. Ce serait d'ailleurs inimaginable qu'on fasse des cérémonies aussi fréquentes, aussi prestigieuses, pour rien. C'est donc une fonction plus subtile qui consiste à renforcer l'adhésion d'une communauté à des valeurs qu'elle partage. C'est une sorte de consolidation de l'ordre social à travers la prononciation et l'audition de belles paroles dans un cadre déterminé.
Et dans un cadre collectif, parce qu'en fait, ce sont des discours qui sont destinés avant tout à être prononcés devant un parterre, un public. On ne va pas les lire au calme chez soi. Ça se fait, ils se font et sont déclamés dans l'espace public.
Au départ. Ensuite, on peut pas exclure la pratique privée de l'éloge. Platon en a donné un exemple dans le banquet où dans cette réunion privée, chacun des convives va faire l'éloge de l'amour. Donc là, ça devient un aspect philosophique en quelque sorte.
Je vais essayer de résumer assez grossièrement et vous allez me dire si c'est ça ou s'il faut apporter quelques précisions. Sous l'Antiquité, il y a deux moments forts de la rhétorique. Il y a un premier moment où on fait de la rhétorique dans un contexte assez politique qui correspond un peu à la naissance de la démocratie athénienne. Et puis un second moment où la rhétorique s'inscrit plus dans un contexte culturel. Enfin, voilà, on parle plus de rhétorique comme art littéraire. Est-ce qu'on peut faire cette distinction comme ça ?
Pour la première époque, je suis tout à fait d'accord.
Ouais.
Pour la seconde, il faut quand même tenir compte encore là des conditions politiques institutionnelles. Mm-hmm. Donc elles avaient changé. L'époque à laquelle vous faites référence, c'est l'époque de l'Empire romain.
Oui.
Et justement, dans le cadre d'un régime autoritaire, totalitaire même, comme était celui de l'Empire romain, l'éloge s'est développée de manière exponentielle. Il ne se limitait pas à la littérature. Il était présent dans les cérémonies et donc il avait une présence effective qui, pour nous aujourd'hui, quand nous y pensons, est quelque chose d'assez inquiétant et peut-être un tout petit peu désagréable parce que ça nous évoque l'idée de la parole obligée, obligatoire. Et au fond, les empereurs romains imposaient qu'on fasse l'éloge de la personne de l'empereur. Combien d'éloges de Néron ont-ils été prononcés ? Ils ne sont pas conservés, heureusement, mais enfin, il y en avait. Et donc, cet éloge est devenu un instrument au service du pouvoir impérial, que celui-ci fût bon ou mauvais.
Et alors, parmi les grands orateurs, on va parler évidemment d'Aelius Aristide dans quelques instants. Quelles sont les autres figures qu'on pourrait retenir, que vous voudriez transmettre ici ?
Pour l'époque classique, j'ai cité Isocrate, qui a été peut-être le maître de l'éloge avec Gorgias. Pour l'époque impériale, il faut peut-être raisonner en termes de corpus. C'est-à-dire, on a un corpus de panégyriques latins qui sont tout un ensemble de discours qui nous ont été conservés, qui chaque fois font l'éloge de l'empereur dans une circonstance telle ou telle. Et on a de même des corpus énormes de sophistes des 2e et 4e siècles qui sont consacrés à des éloges en fonction de différentes cérémonies. Je voudrais quand même ne pas laisser à nos auditeurs l'impression que l'éloge est un instrument d'oppression et rien d'autre. C'est aussi un genre qui se prête à des contenus subtils.
C'est-à-dire...
Et donc, même dans un éloge obligé, l'orateur peut nous faire comprendre, il donne l'impression d'en dire trop ou de ne pas en dire assez, ou de glisser des suggestions détournées, ou de lancer des critiques voilées. J'ai essayé d'explorer cet aspect dans mon livre sur le sous-entendu, et l'éloge est vraiment un genre qui se prête au sous-entendu. Permettez-moi de citer un exemple moderne, mais vraiment succulent, que j'avais pris dans le sous-entendu. C'est la phrase que le général de Gaulle avait écrite sur une photographie qu'il avait dédicacée au maréchal Juin, à la demande de celui-ci. Je cite « Au maréchal Juin, qui a su saisir la victoire quand elle s'est présentée ». Donc, il rendait hommage aux vainqueurs des campagnes de Tunisie et d'Italie en 1943-1944. Mais ce verbe « saisir », au lieu de dire « remporter la victoire », cet ajout au maréchal Juin qui a su saisir la victoire quand elle s'est présentée, on perçoit une réserve, comme si tout en disant « tu as vaincu », le général de Gaulle disait « tu n'as pas été vainqueur ». Et ça reflète évidemment l'opposition des deux hommes, qui s'est manifesté à propos des événements d'Algérie, mais qui existait déjà dans les années 40 entre la France libre et puis l'armée d'Afrique. Et donc cela montre comment chaque phrase, même simple en apparence, peut recéler des prises de position.
Il y en a beaucoup d'autres aussi dans le discours qu'on va examiner d'un peu plus près maintenant. Peut-être un premier mot sur l'auteur de ce discours, Aelius Aristide. C'est une figure importante des orateurs grecs à l'époque de l'Empire romain. Pour devenir orateur à l'époque, j'imagine qu'il faut venir d'une famille plutôt aisée. C'est le cas de cet Aristide.
Notre Aristide, comme on dirait familièrement, c'était un drôle de pistolet. C'est-à-dire que, à certains égards, c'est un notable parfait, comme vous dites. Donc, il appartient au IIe siècle après Jésus-Christ. Il vit dans la province d'Asie Mineure, c'est la Turquie actuelle, donc une province de langue et de culture grecque appartenant à l'Empire romain. Il est fils de notable. Son nom, Aelius, Aelius Aristide, c'est un nom romain, ça prouve qu'il avait la citoyenneté romaine, ce qui était un privilège qui n'était pas encore très répandu à son époque. Et il a mené une vie d'écrivain, de conférencier, d'homme de lettres, en refusant toutefois toute fonction politique effective. Mais à côté de ça, c'est pour ça que je dis que c'était un individu un peu étrange, c'était un malade, d'abord. Donc, il a été malade toute sa vie.
Très jeune, hein ?
Oui, ça a commencé à 25 ans. Et ensuite, durant toute sa vie, il a eu affaire à des épisodes vraiment de toutes sortes, des abcès, des fièvres, des crises d'asthme. Des mots que les lecteurs d'aujourd'hui considèrent peut-être comme un peu psychosomatiques pour une part. Et il en a laissé le récit dans une autobiographie extraordinaire qui s'intitule « Discours sacré ». Sacré parce qu'il pensait être sous la protection du dieu Asclépios, donc Esculape, le dieu de la médecine, qui ne l'a jamais guéri, en fait, hein, puisqu'il était tout le temps malade, mais qui au moins lui évitait de mourir à chaque épisode. Et donc Asclépios l'a accompagné, il le voyait en rêve. Le dieu lui donnait à travers ses rêves des prescriptions médicales qu'il s'empressait d'exécuter au réveil le lendemain matin. Il prenait soin de lui aussi, il prenait soin de sa carrière. Et donc cet Aristide, c'est un homme qui intérieurement était imbu de sa singularité et qui vivait une expérience religieuse tout à fait hors du commun.
Alors cet Aristide, il était grec, mais vous l'avez précisé, il avait aussi la citoyenneté romaine, ce qui m'amène à vous demander quelles étaient un peu les relations entre ces Grecs et ces Romains à l'époque. Ils s'entendaient plutôt bien, enfin il y avait une sorte d'harmonie. Les débuts ont été un petit peu complexes, mais à l'époque d'Aristide, comment se passent ces relations ?
La conquête du monde grec à l'époque d'Aristide au IIe siècle remonte déjà à 200 ans, donc la guerre est passée. Il faut considérer aussi que, par exemple, la province d'Asie mineure, c'était des régions qui avaient toujours eu un maître. Avant les Romains, elles dépendaient, les cités avaient dépendu du roi de Perse ou des Grecs. Donc, c'était des régions habituées à avoir une certaine domination. Et donc, ça explique le caractère pacifique. Il faut dire aussi que les sources ne sont pas très désertes sur les mouvements d'opposition. Et donc, il y a eu des révoltes, il y avait du brigandage, il y avait de l'insubordination, il y avait aussi de la cruauté de la part des gouverneurs romains des provinces. Tout ça, nous le devinons. Nous n'avons pas de description précise. D'où l'impression, disons, d'une domination globalement acceptée.
Vous parlez d'une forme d'impérialisme un peu original, c'est pas une colonisation brutale.
Alors, c'est ce qu'Aristide souligne dans le discours. Donc, au fond, si on essaye de résumer les deux thèmes principaux d'Aristide dans son éloge de Rome, c'est un éloge de l'Empire romain. Et d'une part, il fait des comparaisons avec les grands empires qui ont précédé, l'Empire perse, l'Empire d'Alexandre le Grand, les hégémonies grecques dans une certaine mesure. Et il dit « Rome est supérieure à ses prédécesseurs » parce qu'elle respecte les droits des sujets au lieu de les asservir. Elle veut les intégrer à son système impérialiste. Donc il y a les comparaisons. Et puis le deuxième thème, c'est le développement du bonheur des sujets. Il emploie le mot de bonheur en disant, eh bien, sous la domination romaine, les sujets connaissent la paix, la prospérité, la sécurité, l'urbanisation. Il ose même dire la liberté. Et il a une expression fantastique, il dit le monde est devenu une démocratie. Alors, démocratie, c'est quand même un petit peu fort pour parler de l'Empire romain, mais enfin, l'idée, c'est de montrer qu'il y a moins d'oppression qu'il n'y en avait sous les empires précédents, ce qui est une analyse assez puissante, finalement, et juste si on relativise tout, bien sûr, mais globalement juste.
Et alors, il parle des sujets romains, il parle aussi de la ville en elle-même, il ne parle pas de l'empereur. Là, il fait bien l'éloge d'une cité, enfin, qui est Rome, pas de l'empereur. Ça, c'est un point aussi que vous précisez dans l'introduction de ce livre.
Oui. Alors, pourquoi ? C'est toujours difficile de dire. Donc, l'empereur est omniprésent dans le discours de manière abstraite, à titre de clé de voûte du système politique. Et donc, il dit bien, à chaque fois, toute décision remonte à l'empereur. Par contre, il n'y a absolument pas d'éloge de l'empereur précis, ni de l'empereur en général. Je pense qu'Aristide était gêné par la divinisation de l'empereur. Il était de règle à Rome de diviniser les empereurs après leur mort. Dans la partie orientale de l'Empire, déjà de leur vivant, on les vénérait parfois comme des empereurs. Et Aristide, homme très religieux et très imbu de la supériorité des dieux grecs, n'a pas voulu entrer sur ce terrain. Et je crois que ce silence a une signification. C'est pas une réticence, mais c'est tout de même une réserve.
Il y a par ailleurs aussi quelque chose qu'il faut ajouter. Quand on pense discours d'éloge, on peut se dire, on peut l'associer très facilement à discours d'adulation. Mais ce discours-là, en l'occurrence, le discours en l'honneur de Rome, c'est pas que de la simple adulation, ça va plus loin. Ça prend en réalité des allures de conseil, d'avertissement, au gouverneur aussi, qui pourrait le lire. C'est plus subtil que ça.
Oui, les commentateurs ont été embarrassés par le ton du discours, qui est un ton hyperbolique, d'où le fait qu'ils ont parlé d'adulation, comme vous le dites très justement. Je prends un exemple de phrase qui va dans ce sens. Aristide écrit que dans l'Empire romain, les sujets ont plus de plaisir à verser les impôts à Rome qu'ils n'en éprouveraient à recevoir les impôts d'autrui. Alors, certes, les impôts versés à Rome avaient pour contrepartie la paix romaine, la sécurité. En ce sens, on peut dire qu'ils étaient justifiés. Mais parler de plaisir à payer ces impôts, et qui plus est, de plaisir unanime, on sent l'hyperbole. Ou alors, il dit que les légions protègent les frontières de l'Empire sans verser le sang. Et là, les commentateurs ont été surpris. Le dernier éditeur a même corrigé le texte, parce qu'il lui paraissait invraisemblable qu'une armée ne combatte pas. Là aussi, il n'a pas vu l'hyperbole. Donc, il y a un ton hyperbolique qui donne l'impression d'adulation, mais derrière, il y a un message qui est tout différent. C'est un discours à double fond. Il est très élogieux pour ce dont il parle, et il y a beaucoup de sujets dont il ne parle pas. Et donc, en somme, sont exclus l'histoire de Rome. Il n'y a absolument rien sur l'histoire de Rome, ni Romulus, ni Auguste, ni rien. La culture romaine, la langue, la civilisation, la religion romaine, les grands hommes, les hommes illustres, hein, comme on disait autrefois, tout ça est passé sous silence. Et donc Aristide décrit la domination romaine au présent, telle qu'elle s'exerce du point de vue des provinces grecques. Et donc le message revient à dire « Rome, c'est une machine à gouverner ». Elle exerce cette domination dans le présent. Les Grecs sont bien forcés de la supporter avec réalisme. Il faut aussi qu'ils se disent qu'elle n'est pas pire que d'autres, peut-être même meilleure que les précédentes. Mais ça ne comporte absolument aucune admiration pour ce qu'est Rome à proprement parler. Et donc, je répète, les plus grands achèvements romains, le Colisée, César, Auguste, Virgile, Cicéron, pas un mot, rien sur l'art, tout cela ne l'intéresse pas. Il n'y a que la culture grecque qui l'intéresse. Pas un mot de latin non plus, tout est en grec.
Alors, ce discours, il va le réciter par cœur, parce que j'ai lu que les orateurs récitaient leurs discours comme ça, en les retenant. C'est un discours quand même assez long, hein. Les auditeurs ne voient pas le livre, mais 1200 lignes, c'est ça, à peu près. Il l'a appris par cœur, ce discours ?
Alors, on ne peut pas être sûr. Disons que c'était la méthode la plus fréquente et la plus recommandée, d'apprendre par cœur et de venir réciter. Dans certains cas, on a des exemples de discours particulièrement longs que l'orateur lisait en déroulant le rouleau, le volumen, mais ça n'était pas la méthode la plus fréquente. La mémoire est une faculté dont les ressources sont extraordinaires, et c'est nous, les hommes d'aujourd'hui, qui sommes vraiment amputés de ce point de vue-là. Et on peut dire que notre mémoire est dans les dispositifs électroniques que nous avons, et par conséquent, nous ne retenons plus rien. Et il y a même une décadence visible. Par exemple, il y a une génération, c'était normal de connaître par cœur 50 numéros de téléphone. Et aujourd'hui, avec un smartphone, on ne connaît même pas son propre numéro. Et donc, la mémoire est une capacité qui se cultive. Et si elle est cultivée, elle arrive à des résultats extraordinaires. Nous les voyons encore, ces résultats, dans une seule catégorie de personnes, sont les acteurs, qui, eux, arrivent à retenir des rôles, y compris des rôles extrêmement longs. Tout ça pour dire qu'un orateur entraîné pouvait parfaitement retenir par cœur un discours comme celui-ci, qui représente une heure de prononciation. à peu près. Donc il est fort probable qu'il l'a récité.
Et j'avais lu aussi que les champions de mémoire d'aujourd'hui utilisent les méthodes des orateurs grecs, sous l'Antiquité, pour apprendre à apprendre, en fait. Et donc, ils avaient recours à des méthodes un peu particulières, notamment très visuelles, je crois, pour retenir l'enchaînement du discours.
Alors là, ça nous entraînerait loin. C'était une méthode de spatialisation.
Voilà, c'est ça.
Et donc, il faut se représenter les parties du discours comme les pièces d'un palais.
C'est ça.
Et donc, on entre dans le palais, ensuite on va dans telle pièce. Et comme parfois pour les méthodes mnémotechniques, la méthode est tellement compliquée qu'on se dit elle est encore plus difficile à retenir que le discours lui-même qu'elle devrait aider à se rappeler. Mais ça marchait. Ça marchait et donc il faisait des prodiges, oui.
Et pour avoir essayé de la tester, alors évidemment à une toute petite échelle, ça fonctionne. Ça fonctionne. J'en reviens au discours d'Aristide. Quel écho il va rencontrer ce discours lorsqu'il est prononcé en son temps et puis aussi après ?
Là, malheureusement, nous n'en savons pas grand-chose. Il y a des traces. En cherchant bien, on arrive à reconnaître des échos détournés. Il a été lu, il est devenu un des classiques de la rhétorique. Non pas peut-être ce discours seulement, mais il est passé avec toute l'œuvre d'Aristide, parce qu'Aristide est devenu un modèle pour les orateurs ultérieurs, à partir du 3e et du 4e siècle. L'accueil précis réservé à ce discours, malheureusement, ne nous est pas connu en détail. Je voudrais vous citer un mot de ce discours qui résume cette attitude à la fois d'éloge et de réserve. C'est le moment au début où l'orateur joue sur le mot grec « romé ». « Romé », c'est un nom commun en grec qui veut dire « la force ». Et puis c'est aussi le nom de Rome en tant que nom propre. Et donc il dit à propos de Rome, la ville mérite son nom et les choses ici ne sont rien que force. Rome. C'est donc une manière de nommer la ville sans la nommer. Et c'est ce qu'il ne la nommera pas dans le reste du discours. Donc nulle part le nom de Rome n'est prononcé sinon dans ce passage. Et donc ça a pour effet d'identifier Rome à la force et de rappeler bien que l'Empire est imposé aux Grecs par les armes. Voilà le genre de finesse qu'il faut chercher dans les détails pour comprendre l'intention de l'orateur.
En tout cas, le texte a été imprimé et diffusé en Europe. En France, en ce qui concerne la France, le discours n'avait pas été imprimé depuis 1619. Et l'édition critique que vous publiez, vous, Laurent Pernot, en 2025, met à jour certains propos qui avaient pu être faits avant dans les précédentes éditions. Quelle nouveauté éditoriale on peut trouver dans ce nouveau tome ?
Oui, le texte grec a été imprimé en France une fois. En 1619. Donc au moins, on ne va pas dire encore une édition d'Élius Aristide en voyant paraître ce volume. Le travail que j'ai fait là, c'est une illustration, je pense, significative des tâches qui incombent aux spécialistes de l'Antiquité aujourd'hui et notamment aux académiciens qui travaillent sur les textes grecs. On pourrait croire que les textes antiques sont bien connus, sont édités, disponibles, traduits, interprétés. C'est le cas dans une certaine mesure pour les très grands, Platon, Homère, on peut quand même dire qu'on a plus ou moins compris l'idée générale et puis qu'ils sont accessibles. Mais il reste des milliers et des milliers de pages pour lesquelles le travail de base reste à faire, c'est-à-dire éditer un texte conforme aux exigences scientifiques d'aujourd'hui, traduire, interpréter. Et donc Aristide fait partie de ces réquisites de la recherche, finalement. Je rappelle que là, le discours que je publie est le premier discours d'Aristide à paraître dans la collection des universités de France, mais qu'il y en a 53 au total. Et donc, le chantier est ouvert pour beaucoup d'années.
Vous avez encore beaucoup de travail.
Voilà. Et donc, il faut d'abord étudier les manuscrits médiévaux qui nous ont transmis le texte. Et la dernière édition reposant sur les manuscrits grecs était de 1898. Elle a été donnée à Berlin, et à partir d'un petit nombre de manuscrits. Donc, c'est la première fois qu'on regardait, qu'on lisait, qu'on déchiffrait tous les manuscrits. J'ai été aidé sur ce point par le jeune chercheur palermitain Matteo Di Franco. Et puis, sur cette base, il faut essayer de reconstituer le texte, choisir les meilleures variantes. Mais même la traduction, il n'y avait qu'une traduction que j'avais donnée déjà aux Belles Lettres en 1997, qui ici paraît profondément remaniée. Mais donc, le travail de traduction et le travail de commentaire détaillé restent à faire. Alors nous avons des outils modernes, par exemple le thésaurus de la langue grecque qui permet de consulter toute la littérature grecque conservée de manière électronique. Nous avons des reproductions digitales des manuscrits, ce qui évite d'avoir à consulter chaque manuscrit dans chaque bibliothèque d'Europe et même au-delà. Mmh. Il y a de très gros progrès qui ont été faits dans un certain nombre de sciences de l'Antiquité et qui sont toujours en train d'être faits, l'épigraphie, la linguistique, la paléographie, la rhétorique. Et donc avec tout cet arsenal, on peut dire que nous faisons progresser la connaissance des textes grecs.
Vous pourriez estimer, pour, par exemple pour cet ouvrage, le temps de travail que vous avez fait pour la traduction et le commentaire. J'imagine que ce n'est pas un travail qui s'est fait d'une seule traite, ça a pris quelques années.
Voilà, ben disons, je porte Aristide en moi depuis un demi-siècle, je porte le discours en l'honneur de Rome depuis 25 ans, et le volume que vous avez là entre les mains représente des années, disons, c'est des années de travail, certainement, pour les 50 pages de texte grec. Et je ne prétends pas avoir résolu tous les problèmes.
Laurent Pernoud, j'en arrive à la dernière partie de l'émission où je voulais mettre en avant la tradition bien vivante du discours d'éloge aujourd'hui. Parce qu'à l'Institut de France, ce qu'il faut savoir, c'est que ce genre-là, le discours d'éloge, on le connaît bien et on le pratique encore pas mal aujourd'hui. Est-ce que je vous laisse expliquer la tradition ?
Oui, la tradition à l'Institut.
À l'Institut, oui.
Oui, c'est sûr qu'il est important de parler d'éloge ici à cause de la coutume des discours de réception à l'Académie française qui comportent un éloge du prédécesseur fait par l'impétrant et un éloge du nouvel académicien par le confrère qui le reçoit. Et alors ces discours de réception, ces échanges d'éloges existent aussi dans d'autres académies, pas l'Académie des inscriptions et belles-lettres malheureusement.
Dont vous faites partie,
hélas,
ça c'est dommage.
Mais les autres académies le pratiquent. Et je réfléchissais avant de venir à quelques exemples. Il y a un exemple amusant qui est en rapport avec Lucius Aristide d'une certaine façon. Mmh. C'est le discours prononcé par Paul Valéry, 18 siècles après Lucius Aristide, dans un tout autre contexte, mais qui a utilisé aussi le nom. Le nom, c'est très important dans l'éloge, hein, parce que le nom, c'est le symbole de la personne. Valéry avait été élu à l'Académie française en 1927 au fauteuil d'Anatole France, et il devait donc, selon l'usage, prononcer l'éloge de son prédécesseur. Or, en littérature, tous les opposaient. Anatole France était un auteur facile à lire, du moins en apparence, un auteur à succès, tandis que Valéry était adepte de la littérature la plus cérébrale, la plus intellectuelle dans la ligne de Mallarmé. Ils avaient aussi des divergences politiques. Et donc, c'est dans un contexte de restriction mentale que Valéry a dû faire l'éloge d'Anatole France. Et le procédé qu'il a inventé pour laisser transparaître sa réserve, sa mauvaise humeur, a consisté dans l'omission du nom. Et donc, tout au long du discours, Valéry multiplie les périphrases. Dans le seul but de ne pas nommer Anatole France, donc il dit « Mon illustre prédécesseur, votre grand confrère, celui dont nous héritons le fauteuil. » Et à la fin, ça devient cocasse, une fois qu'on a compris le procédé, et ça conduit à une phrase qui est le clou du discours, toujours à propos d'Anatole France, « Lui-même n'était possible et guère concevable qu'en France, dont il a pris le nom. Sous ce nom difficile à porter, et il fallait tant d'espoir pour oser le prendre, il a conquis la faveur de l'univers. » Donc non seulement le nom d'Anatole France est tu, mais il est reproché au défunt de l'avoir en quelque sorte usurpé, ce nom. C'est vrai qu'Anatole France ne s'appelait pas France, son vrai nom c'était Thibault.
Ah oui.
Mais le nom de France, en réalité, avait déjà été pris par son père, qui s'appelait François. Et donc, si bien que ça n'était pas un pseudonyme, c'était un patronyme. Mais Valéry ne voulait pas le savoir, et ce qu'il voulait, c'était lancer sa flèche pour cette raison.
On va le ranger dans les discours originaux à retenir, parce qu'il faut savoir qu'on peut les consulter, ces discours d'académiciens, dans la bibliothèque de l'Institut. Et d'ailleurs, on m'avait appris une anecdote, le discours de Racine, qui était donc membre de l'Académie française, n'est pas répertorié dans ses archives, parce qu'il considérait que son discours était tellement mauvais qu'il avait honte de ce discours, et donc il ne souhaitait pas qu'on puisse le relire dans les archives de l'Institut. Vous, à titre personnel, il y a un discours récent, je ne sais pas si vous assistez à toutes les séances d'installation d'académiciens.
Ben, je ne prétends pas avoir assisté à toutes. Disons, il y a deux discours qui m'ont marqué, parce qu'ils ont été prononcés par mes maîtres, en quelque sorte. Il y a eu le discours de réception de la grande helléniste Jacqueline de Romilly, donc à l'Académie française. Elle était déjà membre de l'Académie des inscriptions. Elle a eu à faire l'éloge d'André Roussin, le dramaturge. Et puis, l'autre discours qui m'a marqué, c'est le discours de réception de Marc Fumaroli, qui a eu à faire l'éloge d'un autre dramaturge, Eugène Ionesco. Et donc, d'un côté, André Roussin, c'était la comédie, l'esprit, la gaieté. Et puis, de l'autre, avec Ionesco, c'était le problème du totalitarisme, la tragédie de l'existence. Et donc, Jacqueline de Romilly citait Molière, et Marc Fumaroli citait Shakespeare. Donc, ce sont deux textes très profonds qu'on pourrait même mettre en parallèle et qui montrent, je crois, que l'éloge, le discours d'éloge est un genre qui peut aller très loin, qui peut être très profond quand il est manié de manière supérieure, comme là.
Eh ben, on invite les auditeurs à les découvrir sur Internet. Laurent Pernot, merci beaucoup pour cette incursion dans le monde de la rhétorique. Donc, pour les auditeurs qui veulent creuser le sujet, je les invite donc à découvrir cette belle édition commentée de ce discours d'Aelius Aristide aux éditions donc des Belles Lettres, qu'on peut retrouver notamment à la librairie de l'Institut. Merci à vous.
Merci à vous.
Au revoir.
Au revoir.
Les podcasts de l'Institut de France.